Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack. Nous aimons la chanson française. Bistånd klack, mais nous détestons les fadaises. Qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre. Cette phrase est notre devise, notre devise. Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack. D'accord pour les chanteurs, poètes. Bistånd klack, né dans le Rhône ou à Perpète. Suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack.
Notre émission de ce jour est la première d'une nouvelle série réalisée avec Roger Pestouri sur le thème « Une culture paysanne ». Avec cette série, Roger Pestouri a souhaité évoquer la vie, le travail et les mœurs paysannes dans la première moitié du XXe siècle qu'il a traversé dans sa jeunesse. Sa situation dans le Lot à l'époque ne se présente que comme un cas particulier emblématique de la société française du moment. Avec lui, nous allons replonger dans la vie sociale à un moment donné de l'entre-deux-guerres, borné par ces deux cataclysmes sociaux et politiques de 14-18 et 39-45. Dans ce premier entretien, Roger Pestouri va évoquer le thème « Il s'aimait ». Merci de votre attention et bonne écoute.
Ah, si non fosse pas carato,
Pestouri, bonjour. Nous retrouvons aujourd'hui pour une quatrième série d'entretiens. Celle-là portera sur le thème « Une culture paysanne » et aujourd'hui vous proposez de nous entretenir du thème « Il s'aimait ».
Une culture paysanne, c'est ce thème que j'ai choisi parce que je pense que je suis pétri de ça. Je suis, comme je m'appelle souvent, le paysan du Lot. Et quand je parle du paysan du Lot, je parle de cette culture qui porte le souffle de la terre, du village, des gens, en définitive, de tout ce qui m'a construit. J'ai ce sentiment profond que, ayant cette culture et me trouvant dans l'absolu de cette culture, ça m'a créé beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Lorsque j'étais à l'école de Brive, que j'étais interne, je ne supportais pas l'internat, non pas parce que j'aimais pas les études, non pas parce que j'aimais pas cet environnement, mais il me manquait Gignac. Il me manquait cette terre où je suis né. Et j'avais une souffrance telle que lorsque je partais en vacances là-bas à Gignac et que je revenais à Brive, j'aurais souhaité que le train déraille parce que je quittais ce village. Et lorsque la résistance est venue, le même phénomène s'est produit. C'était le 12 mars 1943. Ben, lorsque je suis arrivé à Lyon, j'ai eu tout de suite des responsabilités très lourdes. Et cela a un peu estompé ma nostalgie de ce village natal de Gignac. Mais j'ai toujours dit, même après avoir été condamné aux travaux forcés, après avoir été condamné à mort, j'ai toujours dit que ma liberté, ce combat pour la liberté que je menais, moi, mon patrimoine, mon lieu où je voulais revenir, c'était Gignac. Et c'est pourquoi je me battais avec cette ardeur, retrouver mon village.
Tous les matins, je la découvre au fond de mon café au lait. Et tous les soirs, je la retrouve encore dans mon Beaujolais. C'est comme une vieille maîtresse pour qui je n'ai plus de caresse. Et pourtant, je sais bien que mon heure est venue. Je reviendrai mourir en France. Je finirai ma vie dans mon pays, dormir au lit de mon enfance, même si ailleurs c'est mieux qu'ici. Je ne vais pas vous chanter les larmes aux yeux, vive ma patrie. J'ai rencontré des tas de gens merveilleux dans d'autres pays. Sans être chauvin ni débile, j'ai vu aussi des imbéciles. Et comment vieillissant le cœur, ça perd la vue. Je reviendrai mourir en France. Je finirai ma vie dans mon pays, dormir au lit de mon enfance, même si ailleurs c'est mieux qu'ici. C'est plus fort que moi, mais quand je regarde tous ces gens d'ailleurs qui viennent chez nous s'offrir nos mansardes privées d'ascenseur, eux qui ont ce confort moderne devant lequel on se prosterne, ou ils sont fous, ou alors je ne comprends plus. Ils viennent tous mourir en France. Ils viennent tous mourir dans mon pays, dormir au lit de mon enfance, même si chez eux c'est mieux qu'ici. Je reviendrai mourir en France, je reviendrai à la fin de ma vie, et pour m'aider mourir en France, en France.
Je pense que il y a ces choses particulière chez les personnages, en tout cas le personnage qui est le mien, que lorsque l'on est pétri de cet environnement, de cette culture, on emporte des traces toute sa vie. J'ai toujours souffert, beaucoup souffert, parce que je n'étais pas l'aîné, nous étions deux frères, mon frère était l'aîné et moi j'étais le cadet. Et lorsque nous nous disputions avec mon frère, mon frère nous disait « Ici, ce n'est pas chez toi, ici c'est chez moi ». Et ça, c'était quelque chose de très douloureux pour moi, et j'assumais cela avec beaucoup, beaucoup de peine. Bien sûr, la campagne, la culture paysanne dont je parle, c'est un tout. C'est pas simplement ce que j'appelle culture, il y a la culture tout court d'ailleurs, la culture de ce que représente de vivre à la campagne, de ce que représente d'avoir été domestique de ferme, de ce que représente d'avoir été exploitant agricole. Mais il y a cette autre culture dont je parle aujourd'hui. Il y a les choses, il y a les gens, il y a les odeurs, et il y a tout un environnement. Et je crois que lorsque j'ai cette nostalgie, lorsque j'ai même aujourd'hui à 91 ans ces moments difficiles de la vie, je retrouve toujours ce regard sur ma maison, là où je suis né à Cirejolles. J'ai fait construire d'ailleurs une maison là-bas, une maison toute en pierre, une maison qui assurera peut-être mon immortalité, puisque cette maison, c'est mes enfants qui vont en hériter, et ce sont mes petits-enfants qui auront chacun une terre des 5 hectares que j'ai conservée. Voilà ce que je voulais dire. Ce qu'il y a d'important, c'est que dans cette culture dont je parle, il y a les souvenirs, il y a par exemple le grenier. Le grenier, il y avait l'almanach, il y avait les calendriers. Et je me précipitais au grenier tout seul quand j'étais gosse. Et ce grenier m'avait apporté des choses qui m'ont particulièrement enrichi. J'ai découvert là des lettres, les lettres de mon papa et de ma maman pendant qu'il était à la guerre, pendant qu'il était souffrant. Et ça aussi, ça a été pour moi une révélation. J'ai même donné le thème « Il s'aimait ». Je crois que c'était quelque chose de très fort, de très intense chez eux. C'était très intense parce que j'en avais eu la révélation par la lecture de ces lettres, et puis aussi par quelques discussions, quelques événements. Je me souviens une année, on travaillait, j'étais engagé dans la région bordelaise, nous allions vendanger tous les ans, j'avais peut-être 12-13 ans, et là, il y avait la grand-mère qui vendangeait, et la voisine Julia, et ces deux femmes qui se disputaient souvent dans les vignes ou ailleurs. Et un jour, la Julia lui a dit « Mais, tu n'as pas à faire la fière, parce que ta fille, elle venait chez moi lorsqu'elle fréquentait le Maurice, et ça se passait chez moi. » Et j'étais un peu outré, je savais pas à ce moment-là ce que ça voulait dire, être chez elle, pourquoi. Et j'ai appris par le livret de famille, mon frère ne l'a pas su, que lorsque mon frère est né, justement, il est né un mois et demi ou deux mois après le mariage de ma maman et de mon papa. Et là, j'ai eu toute l'explication. Il s'aimait.
Le gars était un tâcheron, ayant clèbre pour fortune, la fille celle du patron, un beau fermier de la commune. Il s'aimaient tout le temps et plus. Écoutez ça, les bonnes gens, petit de cœur et gros d'argent. L'amour, ça se fout des écus quand ils s'en revenaient du bal. Par les minuit que les assemblées, au risque d'un procès verbal, ils faisaient de l'argent rouler au plein des blés profonds et droits. Écoutez ça, les bonnes gens, qu'un bicorne rengre le temps. L'amour, ça se fout de la loi. La, 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 la. Un jour s'enfuirent tous deux prier, elle son père et lui son maître, de les laisser se marier. Mais le vieux les envoya paître, alors ils prirent la clé des champs. Écoutez ça, les bonnes gens, qui respectaient les cheveux blancs. L'amour, ça se fout des parents. S'enfuirent dans quelques cités, loin de l'amour et de jâche, passèrent ensemble tout un été. Et tout à coup, ils se fâchèrent, puis se quittèrent bêtement. Écoutez ça, les bonnes gens, marié quand tu es content. L'amour, ça se fout des amants. Écoutez ça, les bonnes gens, marié quand tu es content. L'amour, ça se fout des amants.
Je pense que c'était quelque chose de très fort chez eux. Et je crois que le papa qui a été le mien, cet homme, ce couple qu'il formait, l'exemple qu'il donnait, parce que du côté de mon père, c'était très chrétien. Il y avait là l'oncle Bernard, celui qui m'avait humilié, celui qui, au moment de ma confirmation, m'avait giflé, parce que il considérait que je ne répondais pas assez bien aux questions de l'évêque. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, je ne vais plus au séminaire où on m'avait inscrit. Parce qu'on voulait assurer, j'étais l'homme de la succession de cette tradition religieuse. Et c'est là que j'ai découvert la religion, l'ostracisme de la religion. Ce que c'est que d'être engagé dans une aventure où on n'est plus soi-même. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir, que j'ai commencé à assurer ma propre spiritualité. Et c'est cela aussi qui fait partie de ma culture.
Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. Athée, j'habite en bas de ton toit prétentieux. En fumeur de Havane, gros beauf qui te pavane au milieu des charniers avec tes Doberman. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. Pacha, mauvais Sherpa, coupeur de bites en deux. PDG des nuages, vendeur de faux voyages, dealer de poudre aux yeux, metteur de filles en cage. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. Le monde, et pourquoi pas, un gosse aurait fait mieux. Fais l'amour à l'atome, doubler la couche d'ozone, Ève, aurais-tu le droit de faire des tartes aux pommes? Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. Je suis né à Cuba, quelque part en banlieue. Et pour sa Washington, ton pop et ta madone, l'univers les oublie et Satan les pardonne. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. À mon dernier repas, appelle-moi monsieur. Pas mon fils ni machin, un père j'en ai déjà un, qui arrachait les clous quand on clouait mes poings. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue plus, toi qui vis dans les nues. Si ton plafond s'effondre, épargne un peu le monde. Mais comme moi sois sauvé, ceux qui savent leurs aves. En ce qui me concerne, je balance un pavé. Un pavé rouge et bleu dans la vitre des dieux. Ce petit lettre sans clocher, une insulte pour t'approcher.
Mon père était né en Adaillac, en Dordogne. Et cette famille qui était la sienne, c'était des personnes admirables qui faisaient partie à ce qu'on appelait à ce moment-là la bourgeoisie de cette époque. Il avait sa maison là-bas, il a vendu d'ailleurs sa maison, il avait l'environnement, il y avait ce curé dont j'ai parlé, ce curé Bernard qui est enterré d'ailleurs sur le parvis de l'église de Nadaillac avec l'autorisation du président de la République. Il y avait cette tradition et il y avait ce papa que j'aimais par-dessus tout, parce que si j'ai vécu avec lui très peu d'années, j'avais 7 ans lorsqu'il est mort, si j'ai vécu très peu d'années, il m'a beaucoup apporté. Comme il était gazé de guerre, il avait un emploi réservé de cantonnier. Cantonnier, et ça veut dire qu'il travaillait une largeur de route là-bas, la route qui va de Gignac à Chouillac, et des fois, il m'amenait sur la bicyclette, et nous discutions toute la journée. Il avait même aménagé une petite guérite, parce que lorsqu'il pleuvait, il utilisait cette guérite pour se protéger, et là, le papa m'expliquait. Un jour, j'avais trouvé, lui il grattait la terre, j'avais récupéré des pièces de monnaie. Alors j'ai récupéré ces pièces de monnaie comme si j'avais découvert la fortune. Et c'est là que mon papa m'a donné cette leçon de ne pas être tributaire de l'argent. Il faut travailler pour vivre, mais il ne faut pas être tributaire de l'argent, parce qu'à ce moment-là, on est un esclave. On est pris dans cet engrenage, on ne s'appartient plus et on ne pense qu'à la puissance. Et la puissance, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rechercher, parce que c'est quelque chose qui crée deux mondes différents. Les puissants et les autres, ceux qui doivent servir les puissants. Thank you.
manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous leur, dit-il, de prendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'eau. Creusez, fouillez, léchez, ne laissez nulle trace où la main ne passe et repasse.
Quelles étaient les leçons de mon papa. Voilà cette image que je garde de lui. Il est mort gazé de guerre. Je suis pupille de la nation. Il est mort à 27 ans, en 1927. Et je me souviens toujours, la veille de sa mort, on est venu me chercher à l'école de Gignac. J'avais 7 ans et... moi qui essayais toujours de me faire remarquer, lorsqu'on est venu, qu'on a frappé à la porte de Madame Louradour, l'institutrice, que l'institutrice m'a appelé, j'étais presque fier. J'étais presque fier qu'on me remarque. Et c'était pour aller au chevet du papa, parce que c'était sa dernière nuit. Et cet homme, ce personnage m'a beaucoup marqué. Il m'a marqué d'autant plus que lorsque ma maman est décédée en 1942, c'est-à-dire des décennies plus tard, lorsque là-bas au cimetière, nous avons déterré pour que la maman soit à côté de son papa, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Et le papa était là impeccable. Et on conserve les morts chez nous. Mais malheureusement, sitôt qu'il y a eu l'air, tout s'est effrité, tout s'est écroulé. Mais j'ai revu mon père comme des décennies plus tôt. Et cela aussi m'a profondément marqué. Voilà pourquoi je voulais parler de cet épisode qui est celui de ces amoureux qui étaient mon père et ma mère, de leur histoire, de leur aventure, d'événements qui se passaient, qu'on considère aujourd'hui comme tout à fait nouveau, les relations sexuelles, tout ça, mais je me suis rendu compte par la lecture du livret de famille, par la naissance de mon frère, un mois après le mariage de mon père et de ma mère, je me suis rendu compte que lorsque l'amour triomphe, eh bien, il n'y a plus de barrières. Et c'est cela qui a beaucoup pesé aussi dans ma culture, c'est-à-dire ne pas chercher l'enrichissement, avoir des moyens, mais les mettre au service des autres, et puis vivre sereinement et rechercher ce qui est la passion amoureuse de la vie. Voilà pourquoi je suis, on me considère comme l'amoureux de la femme, parce que pour moi c'est une partie essentielle de ce dont je suis construit.
Fragile que la feuille à l'arbre, la vie. Plus lourde que montagne au large, la vie. Légère comme plume d'outarde si tu la lis. À une autre vie, ta vie.
Voilà pourquoi j'ai tenu à rappeler ces choses, et bien sûr ma maman, parce que ma maman, c'était un personnage au grand cœur, un personnage que je m'en souviens toujours. Lorsque l'oncle Bernard le curé m'a giflé là-bas à l'église, que j'ai dit à ma maman, je n'irai plus au séminaire, et ma maman a eu cette grandeur d'âme, que je dirais, et elle m'a dit, puisque tu veux pas aller au séminaire, on te mettra à l'école supérieure, et c'est ce qu'elle a fait. Voyez, c'est des choses dont on se souvient, parce que il y avait aucune subordination à ce moment-là. Elle m'a laissé ma pleine liberté. Et je lui en suis très, très reconnaissant. Je me souviens une fois, à l'école de Brive, j'avais passé un examen, l'examen des bourses, pour payer un peu moins cher la pension. Et comme j'étais un très bon élève, il s'est trouvé que j'ai échoué là-bas, à Tulle. L'examen avait lieu à Tulle. Ça a été une grande surprise, mais je suis très émotif, et je sais pas. J'allais être reçu de justesse, mais j'ai loupé cet examen. Et lorsque nous sommes retournés avec ma maman à Ciréjol, et bien sûr, j'étais malheureux, bien sûr, je me serrais dans ses jupes, bien sûr, les gens attendaient, les gens du village. Alors, Roger, ça s'est bien passé. Et la maman a dit, ça s'est moins bien passé qu'on le pensait. mais ça se passera mieux la prochaine fois. Et elle m'a protégé. Voyez, elle aurait pu à ce moment-là critiquer, dire il n'a pas réussi parce que si, parce que là. Elle m'a protégé. Voilà pourquoi je garde un souvenir implacable, un souvenir très grand, qui est un peu le produit de la culture qui est la mienne, avec cette maman que j'ai toujours vue vêtue de noir, parce que elle a été veuve bien sûr très jeune, puisque mon père avait 27 ans lorsqu'il est mort, et elle a toujours été vêtue de noir. Ma maman, et ça aussi, ça reste une image profonde de ce que représente chez moi, dans ma famille, chez les miens, la guerre, ses atrocités et la mort de mon papa, décédé, gazé de guerre en 1927. Et puis, je voulais dire que le gamin que j'étais, l'étourdi que j'étais, ce pertinent qui, à 16 ans, se croyait déjà un adulte qui était engagé en politique. Je ferai une émission là-dessus, mais un jour, c'était un 1er novembre. Je me rappellerai du 1er novembre. C'est la fête des morts, le 1er novembre, chez nous. On va au cimetière, on allait à l'église. C'était un jour de recueillement. Et comme le papa n'était plus là, c'était très important pour ma maman. Mais lorsque nous sommes sortis du cimetière, je suis allé là-bas, il y avait un café à Gignac, il y avait les copains plus âgés que moi, et ils allaient à Brive écouter Maurice Torres. Maurice Torres était annoncé à Brive, et ils ont dit, on va aller à Brive. Eh bien, j'ai dit, moi je vous suis. Je venais d'adhérer aux Jeunesses Socialistes, nous sommes allés à Brive, nous avons écouté Maurice Torres. J'avais très faim, mais parce que j'avais dit à ses camarades, beaucoup plus âgés que moi, que j'avais mangé, alors que j'avais pas mangé. On a réveillonné en sortant, j'ai encore pas mangé, parce que j'avais pas de sous. Et lorsque nous sommes revenus à Gignac, j'ai dit, vous me laissez à Gignac, moi j'irai à Cirejol, à pied. Et j'ai fait ces 3 kilomètres à pied, et arrivé à Puylambert, la localité avant Cirejol, je vois le long de la route, en face de moi, une ombre, je dis, ça c'est ta maman. Et je la croise, cette femme. Et qu'est-ce que j'ai fait? Droit comme un piqué, je me mets à chanter l'International. Et elle était derrière moi. Je la vois toujours derrière moi. Disait, ils me l'ont rendu fou. Attention, ne parle pas si fort, les voisins vont t'entendre. Voyez un petit peu ce qu'on devient. L'instrument passionnel que l'on devient dans des moments où il y a une force d'irresponsabilité qui prédomine.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison donnant son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisant table rase, foule esclave, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes. L'oisir ira loger ailleurs. Combien de nos chers se repaissent? Mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous.
Voilà, voilà un peu cet affront fait à mon maman. Il est toujours sur ma conscience. C'est toujours quelque chose qui restera durable à moi. Mais ça aussi, ça fait partie de ma culture. Et cette femme qui avait perdu son mari gazette guerre, elle a eu le drame d'être frappée par un cancer. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'étais à ce moment-là dans la résistance. Et la première fois que le docteur est venu là-bas à Cirejol, il a été au chevet de mon maman. Et puis il m'a appelé, il m'a dit « j'ai quelque chose à vous dire ». Il m'a amené dans le chemin et il m'a dit « votre maman est perdue ». Ça sera dans 3 mois, ça sera dans 6 mois, ça sera dans 2 ans, mais elle est perdue. Pour moi, ça a été comme la foudre qui me tombait dessus. Ma maman perdue. Et soigner cette personne qui était ma maman pendant des mois et des mois, et savoir qu'elle était perdue, et j'avais, disons, cette douleur que lorsqu'elle souriait, lorsqu'elle avait un peu de plénitude, de souffrance en moins, elle était, il n'y avait pas la chimie, il y avait les rayons à ce moment-là. On allait à Brive faire les rayons et cette maman, chaque fois que je leur faisais sourire, je disais elle est perdue et j'étais encore plus malheureux. Et ma souffrance aussi, c'est que comme j'étais dans la résistance, elle savait pas l'activité qui était la mienne, bien sûr. Elle me parlait toujours de mon frère qui était prisonnier de guerre. Et elle parlait Henri, 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 j'attends Henri. Moi, je comptais très peu parce que sa souffrance la conduisait à cette exclusivité de tout avoir ramené sur le retour de mon frère qui était prisonnier de guerre. Et lorsque je partais, j'avais toujours cette difficulté, cette crainte de dire « pourvu que tu sois pas arrêté, pourvu que tu sois pas arrêté tant que ta mère a besoin de toi, tant que tu peux rester à son chevet ». Et le hasard des choses, la chance des choses a fait qu'elle est morte en septembre 1942 et j'ai été condamné aux travaux forcés en juillet 43, alors que j'avais quitté Gignac pour Lyon en mars 43. Vous voyez, il y a des fois le hasard qui fait bien les choses et j'ai pu soigner cette maman jusqu'au bout. Je me rappelle toujours ma grand-mère. Ma grand-mère ne savait pas que ma maman était perdue, que ma maman avait un cancer, mais elle se doutait de quelque chose. Et un jour, elle a été à Souillac, à 15 kilomètres, elle a été voir le docteur, et le docteur lui a fait cette révélation. Et je me rappelle toujours, je gardais les brebis là-bas dans un bois voisin de la maison natale, Et la grand-mère est venue, nous avons pleuré tous les deux. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Nous avons pleuré tous les deux. J'ai dit, écoute, le fardeau était trop lourd pour moi. Je ne voulais pas que toi aussi, tu portes ce fardeau. Voilà un peu la culture, ce que ça apporte dans des événements où la douleur préexiste, où vous découvrez ce qu'est la mort, ce qu'est la vie, et en fait ce qu'est l'existence et pourquoi il faut vivre.
D'un cheval marin, la belle aventure, barré sans bateau, bercé de mots doux, rêvant de repos, mais souhaitant surtout, pourvu que ça dure, vécu ce beau jour sans le trouver long, l'eau est un labour, le nègre est si blond, la belle aventure, grain de sablier, et perdu de vivre, perdu sans collier, mais putain pourvu, pourvu que ça dure. Goulu de Prévert, moulineuse avant, les hivers derrière, l'horizon devant, la belle aventure, et rien de Satan, un peu du bon Dieu, les yeux dans les cieux, et priant pourtant, pourvu que ça dure. Se démaquiller, le bleu des pupilles, pour voir l'heure qu'il est, aux talons aiguilles, la belle aventure, chanter comme on ment, sans compter ses pas, courir en dormant, lire sur ses doigts, pourvu que ça dure. Revenu de tout, adieu je décampe, enlacé au cou d'un bel hippocampe, la belle aventure, les chansons, les gestes, les tuiles, les draps, je rends ce qui reste à qui le voudra, voudra que ça dure, voudra que ça dure, la belle aventure, la belle aventure.
Ce qui m'a construit, c'est, je pense, mon goût de la lecture. Je lisais beaucoup. Je lisais des heures et des heures. Je lisais dans la maison, je lisais dehors. Je lisais lorsque j'avais l'âne derrière la charrette. Je lisais des livres, je lisais les journaux. Dans mon sommeil, je me souviens une fois, avec mon frère, nous avions construit un hangar et nous allions chercher la pierre à 3 kilomètres de ce hangar. Et il y avait le moment de la sieste. Et moi, au lieu de faire la sieste, je lisais alors que je crevais de sommeil. Oui, je pense que la lecture m'a beaucoup aidé en gardant les brebis. Je lisais un peu partout. Je lisais et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à rentrer dans cette profondeur que j'appelle une culture paysanne, à découvrir ce qu'était la littérature, ce qu'était la manière de définir le monde dans lequel nous vivions. Je lisais Maupassant, je lisais Jean-Jacques Rousseau, je lisais Anatole France, et j'ai découvert à ce moment-là, ça m'a beaucoup, beaucoup donné du travail, de la réflexion. J'ai lu 7 volumes du Capital de Karl Marx. C'est tout cela que j'appelle ma culture paysanne, c'est-à-dire un aboutissement en quelque sorte qui a toujours été un combat. Et cette leçon que j'en ai tirée, c'est que pour s'aimer, pour aimer les autres, pour se mettre à la disposition des autres, il faut beaucoup s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même, et c'est le plus difficile, c'est de s'aimer soi-même. On aime davantage les autres que l'affection qu'on porte sur soi-même, parce qu'on est toujours porteur de doutes et de choses où vous vous sentez diminué, vous vous sentez humilié, l'humiliation. J'ai vécu l'humiliation là-bas dans cette église de Gignac, lorsque le curé m'a giflé. J'ai senti l'humiliation lorsque j'ai échoué à mes bourses à Tulle. L'humiliation, c'est quelque chose qui a été pour moi une difficulté très grande dans mon parcours. Et lutter contre l'humiliation, lutter pour mettre à la disposition des autres le petit pouvoir qui peut être le vôtre en certaines circonstances, ça a été un peu mon combat, ça a été la manière, en aimant les autres, de m'aimer moi-même. Merci.
Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car, si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés 5-6, quand de la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée et pourrie, et nous les os devenons cendres et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si frères vous clamons, pas n'en devez avoir les dents, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. Excusez-nous, puisque sommes transis envers le Fils de la Vierge Marie. Que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, âmes-nous haries. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a débué lavé, et le soleil desséché noirci. Bicorbeaux nous ont les yeux gavés, et arraché la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis. Puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie. Plus becqueté d'oiseaux que des accoudres. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. embrasse Jésus, qui surtout s'amestrit. Garde qu'en faire n'est de nous seigneurie. À lui n'avons que faire, ni que sourdre. Point de moquerie. Et priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
Ainsi se termine cette première émission d'une nouvelle série avec Roger Pestouri sur le thème « Une culture paysanne ». Émission au fil de laquelle Roger Pestouri a évoqué la vie, le travail et les mœurs paysannes dans la première moitié du XXe siècle qu'il a traversé dans sa jeunesse dans son pays de Gignac, dans le Lot. Cette première émission était consacrée au sujet « Il s'aimait ». Vous avez pu entendre successivement les illustrations musicales suivantes. Une chanson de Batage, c'est un traditionnel interprété par Juan Manuel Serra. Puis c'était la chanson d'Alice Donat, mise en musique et interprétée par Serge Lama, Mourir en France. Ensuite, vous avez entendu un texte de Gaston Coutet, mis en musique et interprété par Vania Adrien Sens, L'amour qui se fout de tout. Puis c'est Alain Leprest qui, sur une musique de Romain Didier, interprétait son texte chanson « Je ne te salue pas ». Ensuite, les Clés à molette interprétaient la fable de La Fontaine, mise en musique par Jean Chavot, un enregistrement public inédit, « Le laboureur et ses enfants ». Ensuite, Félix Leclerc interprétait sa composition « La vie », puis c'est Simone Bartel qui, sur les paroles d'Eugène Potier et de Pierre Desjeter, interprétait l'international. Alain Leprest à nouveau, mais interprété par Francesca Solville sur une musique de Gérard Pierron, vous avez entendu « La belle aventure ». Et enfin, Hélène Martin chantait « Villon » sur une musique de Cohen Solal, « L'épitaphe Villon ». Nous remercions Roger Pestouri d'avoir bien voulu accorder cet entretien à Radio Canus, en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, et plus particulièrement à l'intérieur de celle-ci, à l'émission Bistentlac. Bonsoir.
Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistentlac. Pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, se mise en claque. Qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en 20 mètres de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils
qu'ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les vise, mais on les claque. Qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas
car par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se raidissent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais on les claque, le biston, claque. On se biston claque.